Bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas le professeur Frédéric Blanc. Je suis donc Rémi Janton et je travaille aux côtés du professeur Bruno Dubois à la direction scientifique de la fondation dont Olivier de la Doucette vous a parlé. Je pense que cet après-midi a été très bien lancé par M. Feltz qui a posé un certain nombre de problématiques. Et ce que je vous propose, c'est de faire un panorama de cheminer en regardant un petit peu ce qui est acquis aujourd'hui, ce qui ne l'est pas. Et puis peut-être, je prendrai le risque de faire un peu de prospective à la fin, mais c'est toujours quelque chose de dangereux, donc ce sera prudent. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, je dois passer les slides, il faut que je trouve le... Voilà. La première chose que je voudrais bien mettre en place, c'est une idée très claire sur ce que peut être un traitement de la maladie d'Alzheimer, et de différencier ce qui est un traitement symptomatique et un traitement physiopathologique. Physiopathologique, ça veut dire que c'est simplement un traitement qui prétend agir sur le système en place qui déclenche la maladie, sur la cause de la maladie. Alors j'ai emprunté ces dessins très artistiques à la plume de Bruno Dubois lui-même, qui a illustré très bien cette problématique, cette question. Vous avez une baignoire, vous avez oublié de boucher la bonde. Vous avez deux solutions, soit vous pensez à la boucher, soit vous remplissez indéfiniment la baignoire. Remplir la baignoire, c'est un traitement du symptôme. Boucher le trou, c'est quand même un traitement de la cause, c'est peut-être une approche plus valide. Dans un domaine un peu plus proche de la médecine et moins de la plomberie, vous avez une douleur dentaire, deux solutions, l'antalgique qui va vous soulager provisoirement, ou un traitement qui fait appel au dentiste qui va vous soigner votre dent malade. Traitement de la cause, de la physiopathologie. Alors, d'ores et déjà, dans la maladie d'Alzheimer, on dispose d'un traitement, deux traitements, d'une classe de traitements qui sont des traitements qu'on pourrait appeler symptomatiques. Ils reposent en général, enfin oui, cette classe repose sur la notion qu'il y a un neuromédiateur qui est déficitaire dans la maladie d'Alzheimer. Neuromédiateur, vous savez, c'est ces substances qui permettent de véhiculer l'information de neurone à neurone. C'est eux qui vraiment font fonctionner le système. Et il se trouve que dans la maladie d'Alzheimer, on constate que le taux d'acétylcholine est bas. On a donc trouvé des classes de traitement, une classe de traitement qui inhibe, qui empêche la dégradation de l'acétylcholine. Et ma foi, comme vous le voyez ici, ça fonctionne. Voilà. Les courbes bleues, c'est les patients traités. Les courbes ici qui apparaissent en blanc, c'est le placebo. Et vous avez là une échelle de performance cognitive. Et vous voyez que sous traitement, les patients sont significativement améliorés, surtout à la forte dose, avec des valeurs très, très valides de signification statistique. Mais, deux points. Premier point, si la destruction neurale se poursuit, la synthèse d'acétylcholine va aussi baisser. Vous aurez beau inhiber sa dégradation, le taux va finir par être négligeable. Donc, c'est un traitement qui ne peut fonctionner qu'un temps. D'autre part, là où on voit que c'est bien un traitement symptomatique et pas un traitement qui modifie la maladie, disease modifier, c'est un traitement dont l'effet va disparaître complètement si vous faites, si vous l'interrompez, en effet, vous revenez strictement au point de départ. C'est ici. Vous voyez que les gens traités, si on arrête leur traitement, reviennent à leur point de départ. Donc en fait, la pente naturelle de la maladie est restée ce qu'elle était. Les destructions continuent à se faire. On y a pallié un moment, mais avec un résultat final qui n'est pas tout à fait ce qu'on aurait escompté. Néanmoins, c'est des traitements qui avaient leur utilité et il est un peu regrettable qu'ils ne soient plus remboursés. C'est un peu... parce que c'est quand même un outil dont disposaient les neurologues et qui pouvait aider les familles à un moment. Alors, pour aborder maintenant les traitements physiopathologiques, les traitements de la cause, les disease modifiers en question, il faut peut-être resituer un peu le contexte et donc dire un mot de la maladie d'Alzheimer. Bon, vous connaissez sûrement beaucoup de choses dessus. Les personnages en place, c'est les grands acteurs, c'est Alois Alzheimer, qui était un médecin de Francfort, neurologue, psychiatre, neuropathologiste aussi, donc qui s'intéressait au cerveau. Et la patiente, Madame Auguste Dieter, qui était une patiente âgée de 51 ans quand elle a été hospitalisée à Francfort, avec un tableau clinique tout à fait complet et très bruyant, de troubles de mémoire, de désorientation temporo-spatiale, de troubles du langage, compréhension, écriture, élocution, aphasie, et des troubles du comportement vraiment marquées. Elle avait des idées délirantes, elle criait, elle se plaignait que son mari l'a trompée, elle est très agitée avec des éléments délirants et des hallucinations. Et il se trouve que c'est une famille, son mari n'avait pas de gros moyens, et on raconte qu'il envisageait de mettre sa femme dans un autre établissement qui leur coûtait moins cher. Et Alois Alzheimer a eu peut-être l'idée de sa vie, c'est qu'il a proposé à ce monsieur un marché. Il lui aurait dit: je garde votre femme, vous ne payez pas, mais à la fin, je récupérerai son cerveau. Alors il a dû mettre les formes, mais enfin c'est ce qu'on raconte à ce propos. Eh bien il en a pris, puisqu'il a été le premier, et à juste titre son nom est resté attaché à cette découverte, à décrire les lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer. Elles sont nombre de deux. Oups, pardon, je clique un peu trop vite. Les lésions amyloïdes, ici, qu'on appelle plaque amyloïde, plaque sénile, qui sont donc un corps central un peu amorphe, et autour, ces zones plus denses, avec en général autour une réaction inflammatoire, et ces plaques qui sont à l'extérieur des neurones vont peu à peu les engoncer, les comprimer et contribuer à leur dysfonctionnement. L'autre lésion, les lésions tau, du nom de la protéine tau, qui sont au contraire des lésions intraneuronales, à l'intérieur des neurones. La protéine tau, en fait, est un constituant important des neurones. Vous savez que les neurones, c'est quand même le câblage de notre cerveau, hein, c'est vraiment les voies de communication. Et ces câblages tiennent avec une armature qui sont constituées de tubules de protéines tau. Et ces tubules, lors de la maladie, se déforment, finissent par faire des échevaux et des nœuds qui vont finalement boucher la communication qu'elles sont censées établir, comme si un obstacle s'opposait à la circulation de la sève dans un arbre ou dans des branches d'arbres. Et ça contribue évidemment à la mort du neurone. Alors, autre point intéressant, en fait, cette découverte, à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui constituait ces plaques, ces malformations, mais depuis, on sait que ce sont des protéines. Et qui plus est, la plupart des maladies neurodégénératives, de ces maladies neurodégénératives, on sait aujourd'hui qu'elles sont liées à des maladies des protéines. Des protéines, vous savez que c'est une chaîne d'acides aminés, mais ce n'est pas un simple ruban comme ça. En fait, c'est quelque chose qui est très entremêlé, enfin pas entremêlé, mais torsadé en trois dimensions, et sa fonction est vraiment liée à sa structure. Et si vous avez une mutation qui change un acide aminé, une phosphorylation, enfin un certain nombre d'interventions chimiques comme ça, la structure va être perdue. Les plicatures ne sont pas au même endroit et la protéine ne remplit plus sa fonction. Qui plus est, elle peut s'agréger, c'est ce qui se passe là. Et là, c'est des agrégats de protéines, donc anormales, qui forment ces structures pathologiques et pathogènes, puisque c'est elles qui déterminent la suite de la maladie. Gros progrès des dernières années, vous voyez que ça date de la fin du XXe siècle, hein, c'est quand même pas très ancien, après, donc plus de 80 ans après la découverte d'Alzheimer, on a été capable enfin de mesurer ces anomalies du vivant du patient. Parce que je vous rappelle que jusqu'à cette époque-là, on avait des critères diagnostiques, mais qui disaient maladie d'Alzheimer probable, on n'avait pas la certitude. Aujourd'hui, on peut avoir la certitude du vivant du patient grâce à ces dosages. Deux types de dosages. Alors à gauche, ça concerne la protéine amyloïde, à droite, la protéine tau. On peut les doser dans le liquide céphalo-rachidien, ce liquide qui baigne tout le système nerveux central et qui donc reflète un petit peu ce qui s'y passe. Pour la protéine amyloïde, dans le système nerveux central, dans le liquide céphalo-rachidien, on voit que cette amyloïde baisse. Il baisse pourquoi? Parce qu'on pense que c'est le fait qu'elle s'agrège, il y en a moins qui circulent parce qu'elle se bloque dans ces structures de plaques. Et en PET scan, c'est-à-dire en utilisant des ligands marqués radioactivement qui vont se fixer à la plaque, on peut la visualiser, c'est ce que vous voyez en bas. Il en va de même pour le taux, PET scan en bas et dosage dans l'équipe céphalo-rachidien en haut, à l'exception que là, le taux pas entre les patients Alzheimer et les patients en contrôle est augmenté. Là, il était baissé. Il est augmenté. Pourquoi ? Parce que quand le neurone se détruit, le taux est relargué dans la nature et donc dans le circuit céphalo-rachidien. Donc, un énorme progrès, possibilité de faire le diagnostic du vivant des patients avec une certitude, donc de mieux sélectionner aussi les patients pour les essais cliniques, et possibilité aussi d'observer le déroulement des choses au travers de la maladie. Le déroulement des choses, c'est ce qu'on a appelé la cascade amyloïde. Parce qu'au début, la première chose qu'on observe, c'est une augmentation de la charge amyloïde dans la pathologie. C'est le premier événement. L'événement suivant, courbe en orange, c'est un témoignage de dysfonctionnement neuronal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un examen qui fait appel aux isotopes, qui marque l'utilisation du glucose. Vous savez que le cerveau est très fervent de glucose, il utilise beaucoup de l'énergie qu'on absorbe. Et dans la maladie d'Alzheimer, un des signaux assez précoces, c'est qu'effectivement, le glucose n'est plus consommé par des neurones qui ne sont plus très actifs, qui sont au ralenti. Étape suivante, la courbe verte, on voit apparaître le taux, qui monte progressivement aussi de façon asymptotique. Ensuite, on voit apparaître l'atrophie cérébrale, ça c'est en imagerie, IRM, scanner. Et enfin, et seulement enfin, on voit apparaître les premiers signes cliniques. D'abord, troubles cognitifs, et enfin, troubles de comportement. Donc, cette vision a fait qu'on a pensé longtemps que l'amyloïde était un peu le primum movens, enfin la première étape de cette pathologie et son déterminant. Je vous fais remarquer aussi au passage l'importance de cette période préclinique qui est très longue, qui peut durer jusqu'à 10 ans, entre l'apparition de premiers symptômes et le début effectif du mécanisme de la maladie. Du mécanisme, parce que la maladie n'est pas visible. Autre point, vous voyez que les signes cliniques vont apparaître relativement tard dans l'histoire. La démence, ce qu'on appelle démence, en fait, c'est quand le patient devient perd son autonomie et n'est plus capable de réaliser seul tous les gestes de la vie quotidienne. Et la phase intermédiaire, qu'on appelle prodromale ou altération cognitive mineure, MCI en anglais, c'est le stade qu'on appelle prodromale, c'est-à-dire qu'il y a des signes cognitifs visibles, mais le patient reste capable d'assurer sa vie quotidienne de façon relativement indépendante. Voilà, alors la cascade amyloïde, en fait, c'est ce qui est représenté en bas. Lésion amyloïde, lésion tau, mort neuronale, trouble cognitif. Ça résume un petit peu, finalement, ce que vous avez vu. En fait, il y a deux processus en jeu. Le processus proprement pathologique de la maladie d'Alzheimer, c'est bien les lésions amyloïdes, mais de plus en plus, on pense que les lésions tau ont elles-mêmes leur propre histoire. En fait, quand on vieillit, et on vieillit vite, dès 60 ans, on commence à avoir des anomalies tau localisées dans une portion interne du lobe temporal, et ces lésions vont interagir avec les lésions amyloïdes. Et on sait d'autre part que quand on fait une corrélation entre lésions tau et troubles cognitifs, c'est la meilleure corrélation, elle est plus forte qu'avec les lésions amyloïdes. Toujours est-il que ce qui se passe probablement, c'est la rencontre de la pathologie tau d'un côté, de la pathologie d'Alzheimer de l'autre côté, et que l'une et l'autre vont arriver à cet embrasement qui va faire que le processus se mette en place et que ce processus, malheureusement, va s'accélérer et aboutir à ce déclin cognitif et trouble de comportement. Donc, pour revenir à ça, c'était pour insister sur le fait qu'il y a une partie importante de l'histoire où les troubles cognitifs ne sont pas présents, ou très peu, très faiblement, et qu'il faudra prendre cela en compte. Qu'est-ce qu'on fait en ciblant l'amyloïde ? On espère couper ce mécanisme en interrompant cette courbe, et dès lors, on espère qu'en faisant baisser l'amyloïde, on va aussi faire baisser le taux, le dysfonctionnement des neurones, la mort neuronale et l'atrophie, et les troubles. Donc voilà la logique de ce traitement. Comment peuvent-ils s'appliquer ? On a mis au point des anticorps. Des anticorps qui vont donc cibler la protéine anormale. C'est des protéines, donc il faut les administrer par voie intraveineuse, sinon ils vont être détruits, ils ne sont pas absorbables par voie intestinale. Ces anticorps vont donc pénétrer le cerveau et ils vont se lier à leur antigène, à la substance qu'on a ciblée, qui est la protéine amyloïde, le peptide amyloïde. Alors à ce moment-là, plusieurs actions vont être possibles. Soit ils se lient à des protéines circulantes, des antigènes circulants, ils vont leur éviter d'aller s'agréger sur les plaques existantes. Soit ils vont se lier à des protéines déjà dans une plaque et ils vont petit à petit pouvoir la détricoter, si on peut dire, en enlevant des petits morceaux. Soit ils vont activer une réaction immunitaire locale et les cellules gliales de l'organisme vont pouvoir digérer une partie des plaques. C'est probablement les trois mécanismes qui sont en cause et qui devraient fonctionner. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, oui. Il y a plusieurs exemples donc d'anticorps anti-amyloïdes qui bloquent effectivement, chez les patients atteints d'Alzheimer, le développement de ces plaques et ralentissent ce développement, voire les réduisent. Je me cible un petit peu sur celui-ci. Vous voyez que c'est très clair que le placebo n'a pas d'effet. La petite dose a un petit effet. En bleu, c'est la 26 premières semaines et en rouge, c'est après 24 semaines, 54 semaines de traitement. Vous voyez que la dose augmente et on a un remarquable effet dose, ce qu'on appelle un effet dose. C'est-à-dire que plus la dose est forte, plus ça marche, ce qui est un témoin que l'activité est réelle et que ce n'est pas seulement l'effet du hasard. Malheureusement, ces études, il s'agissait d'études de phase 2 avec des petits effectifs, et probablement chez des patients pris trop tardivement, on n'a pas, dans ces études initiales, mis en évidence d'effets cliniques. Et on a insisté à ce moment-là pour dire qu'il faut vraiment aller plus tôt. Dans ces études, on incluait souvent des patients qui étaient au stade modéré, c'est-à-dire moyen ou assez sévère de la maladie. Aujourd'hui, on cible plutôt des patients légers, voire au stade prodromal de l'affection. Et enfin, après, vous voyez, 10 ans plus tard, on a enfin eu le premier succès thérapeutique validé par l'autorité sanitaire la plus respectée dans le monde, quand même, la FDA, qui a une aura extraordinaire, qui est réputée pour son sérieux, avec aducanumab, enregistré un double événement qui marquera, je pense, l'histoire de la chasse au traitement de la maladie d'Alzheimer, parce que il y avait 20 ans qu'il n'y avait pas un traitement enregistré. Les précédents, c'était les traitements symptomatiques type donepezil dont je vous ai parlé. Et deuxième élément capital, pour la première fois, ce n'était pas un traitement symptomatique, mais un traitement qui visait à ralentir le cours de la maladie, un disease modifier, un traitement physiopathologique. Donc, avancée capitale. Alors, est-ce que tout est rose pour autant ? Vous allez voir qu'il faut un peu nuancer le propos. Le plan de développement fait par le laboratoire Biogen, très bien, rien à dire, impeccable. 2 études de phase 3, 3000 patients, 18 mois de suivi, c'est du solide. Des patients au stade prodromal ou léger, exactement ce qu'il fallait faire, ils cochent toutes les bonnes cases. 3 bras, forte dose, placebo, faible dose, forte dose, rien à dire. Et l'évaluation clinique sur un test admis, respecté, accepté par les autorités. Donc tout était bon, c'est des études qui ont été conduites dans le monde entier, y compris Europe, Amérique du Nord et Australie. Et comme on s'y attendait, confirmation des études de phase 2, une parfaite efficacité sur la biologie. Voilà la courbe placebo, voilà la baisse observée de la charge amyloïde, avec la faible dose et la forte dose qui finit par faire la différence en étant aussi plus efficace que la faible dose. Bien sûr, nettement plus efficace que le placebo, qui ne fait rien, mais supérieur à la faible. Idem dans les 2 études. Donc ça, c'est un résultat très satisfaisant. Qu'en est-il de la clinique ? Alors c'est là que les choses se corsent un peu. 2 études, 2 résultats contradictoires. L'une des études, parfaite, exactement ce qu'on attend. Le placebo s'aggrave de 1,74 à cette échelle. L'aducanumab ralentit la baisse, ralentit la progression de la maladie. La baisse n'est que de 1,35, avec, pour ceux qui s'intéressent un peu aux statistiques, un petit P très significatif. Donc une valeur vraiment quelque chose de très solide. Et on retrouve des différences dans le même sens, avec toujours des petits P très bons dans tous les critères retenus, les critères secondaires aussi, y compris un critère important qui est les activités de la vie quotidienne. Donc quelque chose vraiment intéressant parce que ça montrait qu'il y a un effet sur la cognition, aussi un effet sur la vie des malades. Donc c'est vraiment quelque chose de réel dont l'entourage et les patients peuvent vraiment bénéficier. Malheureusement, il n'en avait pas de même pour l'autre étude qui ne montre pas de différence. Alors là, il faut s'arrêter une petite minute et expliquer ce qui s'est passé. C'est une histoire un peu compliquée parce que les laboratoires Biogen, croyant bien faire, avaient eu l'idée de faire à mi-parcours une étude de futilité, en considérant que maintenir une étude si elle n'a pas de chance d'arriver au bout, c'est pas forcément éthique, c'est très coûteux pour les patients et les familles qui doivent faire un effort pour que les patients continuent à participer, très coûteux bien sûr pour les laboratoires, et ça prend beaucoup d'énergie aux chercheurs, à l'hôpital qui participent à l'étude. Donc, il était admis qu'il y aurait une étude intermédiaire et qu'un comité indépendant se réunirait pour voir si oui ou non l'étude devait être poursuivie. C'est ce qui a été fait. Donc, à un moment, l'étude continue, mais on fait une photo, un arrêt sur image, si vous voulez, on collecte les données, on les analyse, on les rapproprie, on les met en place, on fait des tableaux, etc. Et on fait tourner les machines pour analyser. Conclusion, désastreuse, l'étude doit être arrêtée, il n'y a aucune chance qu'elle se conclue positivement. Ça avait été, je peux vous le dire, un coup de tonnerre dans le monde des alzheimerologues, enfin de la maladie d'Alzheimer, parce que vraiment, tous misaient beaucoup sur ce produit qui paraissait effectivement, comme je vous l'ai montré, bien développé, qui paraissait avoir des résultats prometteurs en phase 2. Tous les signaux étaient au vert et voilà tout à coup qu'on nous annonce que tout est négatif. Là, ça remettait beaucoup de choses en cause. Ça mettait en cause des milliards d'investissements qui ont été faits sur la piste amyloïde et vraiment, c'était une déconvenue extraordinaire. Mais il y a eu un rebondissement. Je vous ai dit que c'était un arrêt sur image, donc pendant ce temps, l'étude a continué jusqu'au jour où le laboratoire décide d'interrompre. Ils interrompent l'étude, l'annonce est fait désastreux, mais bon, c'est interrompu. Ils collectent quand même les données et au bout d'un certain temps, quelques mois plus tard, refont tourner l'analyse avec l'ensemble des données. Aux surprises, ils ont les résultats que je vous montre là. Donc, question. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, ils l'annoncent d'abord, conférence de presse, etc. Ils expliquent que peut-être ça s'explique parce que les patients... la différence peut s'expliquer parce que les patients ont pu recevoir le traitement plus longtemps, bien sûr, que peut-être certains ont pu recevoir le traitement à plus forte dose parce qu'il était prévu qu'il y ait une augmentation de la dose quand c'était bien supporté. Donc tout ce rationnel les pousse à proposer leur dossier à l'FDA. Dossier qui est accepté et on va voir ce qui s'est passé. Au passage, on a parlé de l'efficacité, il faut aussi parler de la tolérance. Ce n'est pas un produit tout à fait anodin, il doit être administré sous surveillance. On a en effet ce qu'on appelle des ARIA, Amyloid Related Imaging Adverse Event, qui sont soit des petits saignements, soit des œdèmes, des petits saignements apparaissent ici en blanc, soit des œdèmes. Donc ce n'est pas des choses dramatiques, mais c'est des choses qui peuvent être sérieuses et il faut monitorer de près les patients avec éventuellement, au moindre doute clinique, des imageries. Mais ce n'est pas l'essentiel du problème, l'essentiel du problème était l'efficacité. Et l'histoire continue avec l'approbation de la FDA. Enfin d'abord, Biogen donc, a soumis le dossier à la FDA et ils avaient un statut de breakthrough therapy, ce qui veut dire qu'ils travaillent avec la FDA pour finaliser le dossier et pour arriver ou pas à une approbation. Dans le processus, en général, la FDA convie un comité d'experts qui sont des experts indépendants, reconnus dans leur spécialité, qui ont une présentation du dossier et qui votent. Et, curieusement, l'unanimité ou la quasi-unanimité du panel vote contre l'approbation de ce produit, au motif que d'abord il y a une étude négative, une étude positive, que ça les gêne, qu'on peut faire toutes les analyses a posteriori qu'on fait, mais que malheureusement ça n'a pas la valeur d'une analyse qui aurait été prévue au départ et conduite de cette façon-là, donc mélanger les deux études, voir si la moyenne finalement sort, etc., c'est du bricolage, scientifique je veux dire, de leur point de vue, et donc vote globalement négatif. Deuxième surprise, nouvelle surprise, la FDA passe outre et donne l'approbation du produit. En disant, on a une approbation comme prévue par la réglementation que l'on suit, qui est sur un critère secondaire. C'est prévu pour des thérapies dans des maladies qui n'ont pas de traitement, où il y a vraiment une percée qui nous paraît importante. Donc sur ce critère de nettoyer l'amyloïde, on approuve le produit et on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe probablement sur le plan clinique. C'est ça qui s'est passé. Et alors après, l'histoire a continué avec des procédures, d'abord des missions de quelques membres du panel, enfin beaucoup d'événements. La Chambre des représentants s'en est mêlée. Bon, et l'histoire n'est pas encore finie. Le produit est sur le marché aux États-Unis. Certaines assurances de santé ont décidé de ne pas le rembourser. Et certains établissements ont dit qu'ils ne prescriraient pas, parce que pour eux, il n'y a pas l'efficacité clinique démontrée. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement de ce produit ? L'efficacité biologique, elle est excellente, elle est indiscutable. L'efficacité clinique, elle est probable. Personnellement, j'y crois parce que je pense que malheureusement, il n'y aurait pas eu cet intérim, cet arrêt de l'étude, tout serait bien passé. Mais malheureusement, le mal est fait et on ne reviendra jamais en arrière. Il y a quelques effets indésirables, ils sont prévus, ils sont connus et il faut les monitorer. Se pose la question, bien sûr, de la taille de l'effet. Est-ce que c'est pertinent sur le plan clinique ? Bon, on a quand même une étude qui montre un bénéfice sur les activités de la vie quotidienne, ce qui est quand même clé, parce qu'on ne soit pas que seulement qu'une échelle de cognition. On cherche vraiment un bénéfice quotidien dans la vie du malade. Les questions ouvertes, c'est combien de temps traité et quels sont les malades qui bénéficient le plus ? Probablement les malades les moins sévères, évidemment. Et puis le coût. Mine de rien, le laboratoire a annoncé un coût de $56,000 par an, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable. Surtout que la durée, on ne sait pas quand arrêter ce traitement, finalement. Le dossier est toujours sur la table, à ma connaissance, de l'Agence européenne des médicaments, qui n'a pas encore tranché. Je pense qu'ils attendent un peu de voir ce qui se passe aux États-Unis, probablement. Donc c'est à la fois une très bonne nouvelle, et c'est vraiment quand même, ça reste une date historique. Il y a eu, je pense, une erreur du labo, mais voilà, ils ont pris un risque. Ils ont perdu, c'est dommage. Mais ils ont gagné partiellement puisqu'ils ont quand même l'approbation. Et je crois que c'est une étape clé parce que ça valide encore une fois des années de travail sur cette piste amyloïde et ça montre que ça marche, ça va marcher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres produits derrière. Et ces produits-là ont des résultats de phase 2 qui sont tout à fait intéressants et on attend beaucoup qu'ils nous apportent de bonnes nouvelles. Ils ont aussi reçu de la FDA le même statut. Donc avec une revue accélérée, et ils pourront être approuvés sur des critères secondaires, mais en phase 2, on voit des signes cliniques qui sont tout à fait prometteurs. Donc je pense qu'on va finir par avoir d'autres traitements, et ce ne serait pas la première fois que dans une nouvelle classe thérapeutique, ce n'est pas le premier qui finalement emporte la mise, c'est peut-être les successeurs. Je vous ai parlé aussi de l'autre versant de la maladie, la pathologie de Tau. Malheureusement, sur cette pathologie de Tau, on est très en retard. Les premiers résultats sont négatifs, beaucoup de produits tombent, mais c'est ce qui s'était passé pour les anticorps anti-amyloïdes. Il a fallu 10 ans probablement pour arriver à un résultat. Peut-être que pour le taux, fort de l'expérience, on ira un peu plus vite, mais il faut un peu de patience et je crois qu'il ne faut pas se désespérer. Peut-être d'ailleurs que la solution sera de traiter simultanément par les deux approches, mais encore faudra-t-il voir comment le coût peut être géré. Avant de conclure, un autre point que je voudrais apporter, c'est cette question de quand traiter et qui traiter ? La tendance, c'est de se dire, puisqu'il y a toute cette période préclinique où il y a des anomalies biologiques, mais pas d'anomalies cliniques, faut-il traiter ces gens-là ? Ça paraît une bonne idée, parce qu'on pourra comme ça éviter que les neurones commencent à se détruire. On pourra intervenir avant le mal, avant l'incendie. Il est plus facile d'arrêter un incendie dans une poubelle que quand la forêt est embrasée. Alors, est-ce que ça peut se faire ? Eh bien, écoute, c'est une question auquel une étude assez élégante de la Salpêtrière a essayé de répondre. En prenant des patients, donc âgés, 75 à 85 ans, impeccables sur le plan cognitif, ils avaient des batteries de tests qui montraient qu'ils étaient parfaits, et on leur faisait passer un PET amyloïde pour discerner ceux qui avaient effectivement des lésions amyloïdes. Dans ce groupe de 320 patients, 28%, 80, avaient des lésions amyloïdes. Et ils ont été suivis dans le temps, tous, avec tous les 6 mois, des examens cliniques approfondis, cognition, etc. Et à 24 mois, de nouveau, imagerie IRM et PET amyloïde pour voir ce que devenaient leurs lésions. Et de façon très intéressante, après 5 ans de suivi, seulement sur 88 malades qui avaient une charge amyloïde anormale, qui donc avaient peut-être un mécanisme d'Alzheimer en route, seulement 15, c'est-à-dire 16%, ont développé une maladie d'Alzheimer authentique. Donc, un petit avertissement, précaution, avant de se dire on a des dépôts amyloïdes, donc on est malade. C'est pas si simple que ça. Et rien aujourd'hui ne permet de prédire ce qui va évoluer ou qui ne va pas évoluer. Donc, en un mot de conclusion, on a enfin quand même une preuve que la piste amyloïde est à suivre, est bonne et va probablement donner des résultats très, encore plus tangibles que ce qu'on a vu avec l'aducanumab. On sait qu'il faut traiter tôt et la question que se pose, alors là c'est un peu de prospective avec tout le risque que ça comporte, de se dire, faut-il dépister et comment ? Dépister par l'amyloïde seul, on a vu que ce n'est pas significatif puisqu'on ne peut pas prédire qui va évoluer. Probablement faut-il mixer des tests cliniques et des tests biologiques. Sur les tests cliniques, on voit actuellement le développement de pas mal de systèmes sur tablette qui permettent, avec des tests très fins, parce que sur tablette on peut mesurer aussi le temps de réaction, des choses très précises, très quantifiables, qui peuvent peut-être dépister des signes très précoces d'anomalies. Auquel cas, les malades pourraient être mis dans une filière de soins, suivre un diagnostic plus approfondi avec des neuropsychologues, tous les tests qui conviennent, de l'imagerie, des tests biologiques. Tests biologiques qui d'ailleurs maintenant sont de plus en plus simples à réaliser puisqu'on va avoir bientôt validé des tests analogues à ce que je vous ai montré dans le liquide céphalorachidien mais faisables dans le sang. Et c'est quand même plus facile de réaliser une prise de sang que de réaliser une ponction lombaire. Donc il y a des pistes et si ce système était structuré, mis en place de façon vraiment établi dans une filière de soins, on pourrait envisager qu'à partir d'un certain âge, on ait de façon organisée, en présence d'un professionnel de santé, ce type de test clinique réalisé sur tablette. Éventuellement, s'il y a un signal, on rentre dans une filière plus intensive avec un test biologique et peut-être de l'imagerie, ou diagnostic ou pas diagnostic. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc beaucoup de choses à faire encore, beaucoup d'inconnus, mais on tient peut-être une bonne piste et il faut effectivement continuer les efforts et la recherche. Je vous remercie de votre attention.